Maintenant, c'est parti et je passe la parole à Maria Geringer.
Bonjour à tous. Je salue chaleureusement tous les participants à ces débats virtuels sur le sujet l'art numérique, influence de la numérisation sur la production artistique. Notre discussion est organisée et conçue dans le cadre de l'appel à projet Digital Utopie, lancé par le Bureau de la coopération universitaire de l'Institut français d'Allemagne et l'Université franco-allemande pour le semestre d'été 2020. Nous, en groupe d'étudiants de l'Université technique de Dresde, avons créé 3 ateliers, débats qui se concentrent sur différents aspects de l'impact de la numérisation sur la société à l'époque actuelle et dans le futur. Chaque atelier est conçu comme discussion entre 4 à 10 personnes, invitées par les organisateurs, dont une partie sera allemande et l'autre française ou francophone. Aujourd'hui, nous avons invité Jonathan Séné, informaticien, webmaster du magazine littéraire Internet Remunet, auteur des livres analogiques tels que des textes numériques comme L'homme heureux, détruire Internet. Bonjour, Monsieur Séné. Le deuxième invité est Simon Rosenfeld, qui est un musicien couronné du succès sur le nom d'artiste Rosenfeld. Sa chanson « Do it for me » a atteint 6,2 millions de plays sur la chaîne YouTube de Mr. Suicide Chic. Bonjour Simon.
Bonjour.
Je salue pareillement les étudiants qui participeront au débat, Anne-Marie Ringstein, Université de Dresde, Félix Zuckert, Université de Dresde, Sebastian Erger, Université de Dresde, Alexia Guillermic, Maria Flügel, responsable de la culture à l'Institut français à Dresde, et Anna Schröder. Et finalement, Thorsten König, qui accompagne le projet de la part des enseignants de l'Université de Dresde. Un grand merci à tous d'avoir trouvé le temps pour participer à notre discussion. L'un des objectifs principaux des débats organisés est de faire émerger les défis, les chances, mais aussi les risques de la numérisation dans une perspective plus réelle qui compare les perceptions allemandes, françaises ou bien francophones. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dans laquelle la numérisation affecte la production artistique, notamment dans les domaines de la musique et de la littérature. Nous reparlerons des avantages qui résultent des possibilités techniques et communicatives offertes par l'Internet et les moyens d'enregistrement digitaux, mais nous parlerons aussi des inconvénients. Ce qui nous intéresse est surtout le lien entre production artistique, marché de distribution et réseaux communicatifs. Nous allons regarder l'état actuel de cette production, nous jetterons un regard sur le passé et l'évolution de ce domaine et nous allons tenter des prévisions pour le futur. Alors ma première question est à Simon. Simon, qui est-ce que peut bénéficier le plus de la croissance rapide de l'industrie de la numérisation dans le domaine de la musique? Les artistes, le public, les producteurs ou les marchands?
Je vais prendre deux secondes pour réfléchir. Je pense, honnêtement, à mon avis, je pense les artistes. Après, je suis probablement biaisé dans ma réponse parce que je suis artiste moi-même. Mais selon moi, avec l'état actuel, hein, avec grâce à Internet, la numérisation de la musique, je pense qu'un artiste est plus libre de faire ce qu'il veut actuellement, étant donné l'état du marché, entre guillemets. Là où avant, on aurait vraiment eu... un artiste aurait eu besoin de toute une équipe, d'un manager, il aurait eu besoin d'un label pour distribuer sa musique. Actuellement, on peut trouver... on va sur Internet, on cherche distributeur indépendant, on prend l'un des 3 premiers liens, on a notre musique, on l'envoie sur Internet. Ensuite, évidemment, l'artiste, il doit quand même réfléchir. Enfin, il faut quand même que son produit soit de qualité. Mais je pense franchement que c'est la personne qui va en bénéficier le plus. Après, évidemment, le public va en bénéficier parce que les artistes auront plus de choses à proposer, étant donné qu'on enlève un chaînon en fait à la chaîne de distribution. Éventuellement, avec Internet, un artiste peut directement distribuer à son audience. Donc, au bout du compte, le public va avoir plus de choix, je pense. On va peut-être avoir vu que les artistes peuvent distribuer comme ils veulent sans passer par des labels. Après, potentiellement, pour moi, c'est le plus dur possiblement pour les labels, vu que ça leur fait, ça les rend légèrement obsolètes dans la façon dont ça procédait avant. Il faut qu'ils évoluent. Parce que, en tout cas, de mon point de vue, avec ce que je fais actuellement, je trouve que les labels sont assez obsolètes aujourd'hui avec Internet. Et ont besoin d'évoluer. Et que c'est les artistes qui en profitent le plus, de la digitalisation du marché.
Et Monsieur Séné, est-ce que la situation dans le domaine de la production littéraire est comparable avec celle de la musique ou est-ce que les défis sont les mêmes?
Il y a des échos, oui, dans ce que dit Simon. Effectivement, il y a quelque chose de ça sur le fait que les éditeurs traditionnels sont un petit peu en retard, voire complètement, non seulement ils freinent, mais ils peuvent empêcher aussi même le développement de tout ce qui est numérique. Pour les livres numériques, il y a ce qu'on appelle les DRM, les Digital Rights Management, qui sont des verrous posés sur les fichiers et qui limitent beaucoup en fait la simple diffusion d'un livre numérique parce que finalement, on se rend compte que c'est difficile même de lire pour soi-même quand on achète un livre avec DRM, ça peut être compliqué. On perd la notion de prêt de livre avec ce système. Et puis, il y a tout ce qui est le prêt en bibliothèque aussi qui est vraiment extrêmement compliqué. Les éditeurs traditionnels, les gros éditeurs traditionnels ne sont pas du tout adaptés à cette possibilité que pourrait donner le numérique pour diffuser la littérature tout simplement en bibliothèque. Les librairies, c'est la même chose. Le livre numérique pourrait très bien se vendre en librairie, mais il se trouve que ça se fait pas pour plein de raisons, parce que bon, c'est aussi un investissement pour les libraires qui ne peuvent pas investir évidemment pour ça. Il faudrait des aides et c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc c'est vrai que ça résonne, ce que dit Simon, avec le fait aussi que finalement les auteurs et les autrices se débrouillent et utilise Internet chacun à sa façon, et ça ouvre des possibilités pour de diffusion pour des gens qui étaient bloqués dans les réseaux traditionnels. On voit aussi des auteurs traditionnels qui sont eux-mêmes, alors qu'ils ont publié dans les années 80-90 des livres papier chez des grands éditeurs traditionnels, à un moment donné ils se retrouvent bloqués, leurs livres, ça ne convient plus au marché, on commence à leur parler de marché, de rentabilité du livre, et il y a des auteurs qui peuvent se tourner sur Internet, développer leur propre site, ou voir leur propre maison d'édition en ligne. Ça arrive là depuis quelques années. Là, après, d'abord, les sites perso d'auteurs qui étaient avant papier, qui sont passés sur Internet, il y en a qui commencent à développer leur propre maison d'édition. Et puis, alors, sans parler, bien sûr, de toute l'auto-édition qui là ouvre carrément une liberté totale pour tout le monde de publier ce qu'il veut, comme il veut, et pas seulement sur des sites web, mais aussi sur des livres et des plateformes de partage de livres.
Mais est-ce que c'est plus facile de distribuer la littérature ou la musique dans ces moments-là? Est-ce que c'est plus facile que avoir un contrat avec un label ou avec une édition?
C'est vrai que pour la littérature, en tout cas, c'est vrai que c'est deux mondes différents. C'est vrai que tout ce qui se passe en ligne reste en ligne, on pourrait dire, c'est-à-dire que les réseaux sociaux diffusent de la littérature en ligne, que ce soit des éditeurs comme mon éditeur Pubinet ou comme un éditeur tout récent, Rocambole, qui propose là c'est le Netflix du livre, après il propose des séries, on s'abonne et on a une interface qui ressemble à Netflix et on lit les épisodes qui arrivent épisode après épisode. Donc c'est vrai que ça c'est des choses qui se diffusent beaucoup en ligne, à travers les réseaux. Alors Rocambole est en train d'exploser là, ce qui est pas le cas de Binet qui continue de rester dépendant des réseaux sociaux et des sites traditionnels historiques d'internet littéraire francophone. même s'ils essaient là de développer tout ce qui est diffusion en librairie, parce qu'en fait c'est ça le souci, quoi, c'est la diffusion. C'est vrai que la, même le livre numérique, on se rend compte qu'il est, on pourrait penser que le livre numérique peut se déployer facilement, s'envoyer, se prêter, un site web, en un clic, on trouve un livre, alors qu'en librairie, c'est plus compliqué, il faut le commander, c'est plus long, les circuits sont pas les mêmes. Et en fait, non, ça ne marche pas vraiment. Et le livre, en France, en tout cas, il reste beaucoup, même le livre numérique, il passe beaucoup par les librairies pour se faire connaître. Et c'est ce que fait Publinet. Donc, chaque livre a sa version papier. Alors avant, c'était d'abord la version numérique qui guidait la sortie du livre, puis le livre papier sortait. Maintenant, depuis 2 ans, c'est l'inverse, c'est le livre papier qui guide la vie du livre, et il y a une version numérique gratuite offerte, mais c'est vraiment le circuit traditionnel qui reste le principal circuit de diffusion. Pour le livre, en tout cas.
Merci. Et Simon, est-ce que tu peux dire si c'est plus facile de distribuer la musique par soi-même?
Alors, ça va faire écho un peu à ce que disait Joachim, c'est que, alors c'est peut-être plus facile de la distribuer, ensuite il faut avoir des gens à atteindre. C'est bien d'avoir sa musique dans l'internet, hein, mais ensuite il faut toucher des gens. Parce que les gens, enfin, on écoute, je sais pas combien de chansons on va écouter par mois, mais combien de fois on va envoyer une chanson qu'on a aimée à un ami, c'est une fois tous les, je sais pas, donc ça marche pas comme ça. Après, c'est là où distribuer va être facile, mais atteindre des gens, ça va être très compliqué. C'est là où justement un label n'est pas si obsolète que ça. Là, ça va servir où faut avoir une équipe, et là, être tout seul va être compliqué. C'est possible, c'est faisable. Mais ensuite, c'est où est-ce que, pour quelqu'un qui a envie de distribuer sa musique en ligne, il va falloir attribuer du temps, enfin supprimer de son temps qu'on va prendre à vouloir être artiste et devenir son manager, son label. C'est un investissement de temps qu'il faut avoir, ou un sacrifice sur le temps qu'on a envie d'investir sur son temps d'artiste, quoi, où on va te faire envoyer des mails, faire des fiches Excel. Donc c'est sympa, mais si on n'a pas envie de faire ça, alors c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'avantages à faire les choses tout seul. Ensuite, est-ce que ça change, est-ce que c'est vraiment en rapport avec la digitalisation plus qu'entre être tout seul, être indépendant? Je ne sais pas, parce qu'un artiste indépendant avant ou maintenant, dans tous les cas, il se retrouve plus son propre manager, son propre label qu'à être artiste lui-même. Après, l'avantage de la digitalisation, c'est que ça va être une économie de temps, je pense, quand on est tout seul à vouloir faire ce boulot. On a moins besoin d'aller rencontrer des gens, on peut juste envoyer un mail, on peut juste appeler, on peut faire une visioconférence. Et j'avais l'impression d'avoir plutôt un schéma inverse par rapport à ce que disait Joachim sur le format physique et le format numérique. Personnellement, j'ai l'impression que justement ce qui est physique devient totalement annexe dans la musique, et que maintenant le CD va être plus comme de la merch, quoi. Ça va être vraiment un objet de collection qu'on va pas utiliser, mais plus qu'on va avoir comme un t-shirt ou comme une casquette de l'artiste. On va acheter le CD physique, mais la vraie utilisation de le support qu'on va utiliser pour écouter l'artiste, ensuite ça va vraiment être les services de streaming ou de téléchargement, enfin iTunes, Spotify, SoundCloud, et vraiment que le CD maintenant est un objet de collection et très peu d'utilisation. Enfin, beaucoup d'ordinateurs n'ont plus de lecteur CD de toute façon, donc ça va être compliqué de l'écouter, ce CD.
Mais quand pensez-vous que les supports sonores vont disparaître?
C'est une bonne question que je me pose moi-même, parce que c'est assez important. Je ne suis pas sûr que ça disparaisse totalement. Après, c'est possible que ça se transforme, parce qu'étant donné que c'est un objet de collection, on voit quand même que le vinyle revient un peu plus à la mode, par exemple. Donc, c'est possible que le vrai CD MP3, celui-là, disparaisse d'ici 10 ans. Et encore, c'est lui faire une mauvaise pub, parce que c'est pas cher à acheter un CD, donc c'est facile pour un auditeur, un fan d'acheter un CD, ça, à produire, ça coûte 2 euros, 2, 3 euros. Avec les frais d'envoi, on peut les faire à 7 euros, 10 euros. Donc pour un fan, c'est plus simple d'acheter un CD MP3 que d'acheter un vinyle. Après, pour moi, je verrais plus le vinyle revenir vraiment à la mode dès que ça commence. Et le CD baisser, mais ne pas disparaître. Parce que ça reste une façon facile et pas chère d'avoir quand même un support physique pour la musique. Ça reste quand même très, très économe comme support.
Merci. Et j'ai aussi une question pour les autres participants. Comment voyez-vous en tant que consommateur l'accessibilité des produits musicaux ou littéraires dans les réseaux numériques?
Alors, je me permets de rebondir sur parce que je suis aussi consommateur de musique. mais c'est vrai que j'ai une grosse différence entre le disque et le livre. C'est vrai que le livre, j'ai l'impression, on ne peut pas s'en passer pour lire. C'est tellement pratique, le système des pages reliées entre elles. Alors que pour la musique, c'est le son, et il faut avoir le son. Après, si le son vient d'un CD, d'un vinyle ou d'un stream, ça ne fait pas grosse différence. Alors c'est vrai que pour la lecture, le support fait une grosse, grosse différence. Et puis après, il y a c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de symbolique. C'est sans doute pour ça que le vinyle revient. Il y a quelque chose de symbolique. La force symbolique pour l'artiste d'avoir son disque en vinyle et puis pour le fan d'avoir aussi le disque, d'avoir l'objet en vinyle. Il y a un lien comme ça. Et pour le livre, il n'y a que le livre. Donc du coup, c'est... Alors, je pense pas que le livre va disparaître de sitôt avec ça. Alors après, la question, c'est est-ce que le numérique, le livre numérique va pouvoir se développer et apporter d'autres choses au simple support papier? Ça, même encore aujourd'hui, on ne sait pas. Alors que si on m'avait demandé il y a 10 ans, j'aurais dit oh bah oui, en 2020, on saura, ça aura beaucoup évolué. J'ai l'impression que ça n'a pas évolué beaucoup, en fait.
Oui, j'ai aussi un peu peur que la génération plus jeune ne va lire pas. Parce qu'ils sont plus attachés aux téléphones ou les ordinateurs. Et je pense que ne va pas être très important pour la plus jeune génération.
Après, moi, je me permets d'intervenir aussi. Pour moi, c'est un peu l'inverse quand même, parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec Joachim Séné, qu'il y a une grande différence entre CD et livre. Et pour moi, personnellement, moi, j'ai pas un e-reader ou un livre numérique, parce qu'en fait, moi, j'aime bien d'avoir vraiment un livre, parce que c'est aussi un peu la tradition. C'est aussi, comme je suis assez souvent devant l'écran, devant mon ordinateur, c'est vraiment un peu un moment où moi aussi, je peux seulement lire avec le livre. J'ai un texte imprimé devant mes yeux. Et du coup, avec la musique, c'est un peu différent parce qu'en fait, c'est un peu pareil. Alors, si j'écoute Spotify ou si je prends le CD, alors bien sûr, le moyen est un peu différent. Mais après, à me les faire, c'est un peu pareil. Bon, pas tout à fait, mais c'est pour cela, je suis tout à fait d'accord qu'il y a encore une différence entre les deux supports. Ouais.
Mais est-ce qu'il y a des autres pensées sur les médias physiques?
Alors, pardon, sur les médias physiques, moi, je n'ai pas bien compris la question, en fait.
Qu'en pensez-vous sur les médias physiques et les utiliserons-nous encore à l'avenir pour les autres participants? Peut-être Anne-Marie.
Bon, je peux essayer de m'exprimer en français, c'est un peu difficile. Quand tu as un CD, tu fais le choix, tu le mets dans ton, je ne sais pas, pour écouter le CD, et tu écoutes l'album, et après tu fais un nouveau choix. Et pour moi, c'est... quand j'écoute Spotify, je le fais moi aussi, et tu as tout. toute la musique. Et quand tu veux plus te concentrer sur cette deuxième chanson de l'album, tu le changes très vite. Et ça, c'est un peu le risque du temps d'aujourd'hui, parce que tout le monde peut très vite changer d'avis et écouter quelque chose d'autre et aller... Vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'il y a tellement beaucoup le seul album n'est plus estimé, je ne sais pas si vous comprenez.
Pour rebondir sur ce que Anne-Marie disait, c'est vrai qu'il y a entre le livre et la musique, il y a une différence d'engagement en fait de l'auditeur, du lecteur. Enfin, je pense, hein, quand on lit un livre, enfin, je vais commencer par la musique, quand on écoute une chanson, la chanson elle dure 3 minutes, et ensuite on passe à une autre chanson. Et au pire, hein, si on écoute un album il va durer entre 40 et 60 minutes, et ensuite on passe à autre chose. Quand on lit un livre, pour le lire 3 minutes, il faut vraiment que le livre ne nous donne pas envie. Et je pense qu'il y a beaucoup de livres qui durent plus de 40 minutes à lire. Donc, ça fait plus de sens, je pense. Ensuite, Joachim pourra me corriger. C'est vrai que je n'ai pas lu beaucoup de livres dernièrement. mais ça fait plus de sens d'avoir un support physique pour quelque chose dans lequel on va être engagé plusieurs heures. Que d'avoir un support physique pour quelque chose qu'on va écouter 3 minutes. Enfin, limite, on va prendre autant de temps à aller chercher notre CD, à aller le mettre dans notre machine et lancer la machine qu'à l'écouter. Donc, c'est limite restrictif dans le cas de la musique d'avoir un support physique. Ça demande une sorte de rituel pour aller écouter la musique. Là où avoir le support physique pour le livre, on le sort de son sac et on l'ouvre et c'est bon quoi. On a notre livre. Pour la musique, elle est soit t'as un baladeur MP3 dans ton sac, ce qui n'existe plus, soit tu es chez toi. Donc c'est vrai qu'il y a une différence d'usage pour les supports physiques entre musique et littérature. À ma conclusion en tout cas.
Merci.
Si je peux intervenir sur les usages, c'est vrai que moi, quand je lis certains livres en numérique et d'autres en papier, et ce n'est pas les mêmes livres. C'est-à-dire que quand je vais lire un essai dans lequel j'ai besoin de retenir des passages, de surligner des choses, je vais préférer le livre numérique sur mon téléphone. Souvent, c'est des gros livres en plus que je ne peux pas vraiment emmener dans les transports. Si j'avais les 600 pages avec moi, je préfère l'avoir sur mon téléphone. Et aussi pour travailler tout simplement l'outil de recherche, recherche de termes, quand on utilise un livre pour travailler, rechercher des mots-clés dedans, c'est vrai que là, si on peut avoir la version numérique, c'est précieux, quoi. Alors que et par rapport au temps de concentration, finalement, j'ai parlé de Rocambole tout à l'heure, donc une toute jeune maison d'édition, et qui pour une maison d'édition commence, je disais, à exploser, parce qu'aujourd'hui on a appris qu'ils avaient levé 350 000 euros. Je ne crois pas que c'est tous les jours qu'une maison d'édition reçoit 350 000 euros comme ça pour se développer. Donc leur système d'application sur téléphone pour lire par épisode, en fait, dans leur discours, eux, ils font le constat, alors je ne sais pas si c'est scientifiquement juste ou quoi, mais en tout cas ils font le constat que les lecteurs en général sont plus... mobilisés par leur téléphone, les notifications, le temps a été haché, on zappe. Les lecteurs, en gros, leur conclusion, c'est que les lecteurs n'arrivent plus à se concentrer et donc eux, ils proposent des épisodes. Et donc, ils vont lâcher des épisodes comme ça par jour ou par semaine, je ne sais pas exactement comment ils font, mais disons qu'ils ont eu l'idée, voilà, de revenir en plus à quelque chose qui n'est pas neuf, quoi, de faire de la littérature par épisode, du roman... comme dans les journaux au 19e siècle, il y avait beaucoup, voilà, des romans écrits au fil de l'eau, épisode après épisode. Donc, il y a aussi sur cet usage, voilà, un temps de lecture qui serait, qui serait d'après modifié par les réseaux sociaux, auquel ils s'adaptent en proposant des lectures comme ça, et où là, c'est le téléphone qui permet de lire, alors qu'effectivement, comme dans d'autres cas, une fois qu'on a le livre en main, c'est aussi un moyen de, justement, de couper les connexions et de rester avec son livre pendant le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est peut-être aussi la question des usages. Et alors ça, c'est pour le côté lecteur, mais après, on pourra peut-être parler tout à l'heure du côté création, quoi, parce qu'il y a aussi le fait de... voilà, est-ce qu'on crée différemment un livre papier d'un livre numérique, d'un site web? Est-ce qu'un site web est un livre? Est-ce qu'on peut faire pareil, réfléchir pareil avec la musique? Il y a voilà, des choses qui sortent que sur YouTube. Est-ce que certaines musiques sont plus adaptées au streaming que d'autres? Ça, je ne sais pas, mais ça peut être des questions qu'on peut se poser. Ouais.
Mais est-ce qu'on lit vraiment sur l'Internet? Je ne sais pas. Peut-être que je suis la génération avec le livre physique. Mais pour moi, ça ne marche pas lire avec la liseuse. Pardon?
Oui, il y a les liseuses. En français, on dit liseuse pour les appareils type Kobo ou Kindle qui sont noirs et blancs, qui font pas mal aux yeux. Et les tablettes, après, bon, les téléphones, ça, c'est autre chose.
Oui, mais pour moi, ce n'est pas possible parce que je ne sais pas, peut-être je ne peux pas prendre l'information sur une tablette ou... sur un téléphone. J'ai besoin vraiment des livres physiques.
Après, à mon avis, bon, on est la même génération. Je crois que ça dépend aussi, comme Joachim Siné a dit, ça dépend aussi un peu de l'utilisation. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Quand moi, par exemple, je fais des recherches et je vois à la bibliothèque, voilà, le livre existe aussi comme livre numérique. Moi, personnellement, je préfère, par exemple, d'être aussi avec la tablette et d'avoir vraiment le livre et de chercher des mots parce que je veux pas forcément lire tout le livre pour avoir l'information que je cherche. Et de temps en temps, c'est aussi pareil avec les romans parce que je veux peut-être avoir, ou peut-être pas forcément avec des romans, mais il y a des poèmes dans certains livre et je veux avoir que le poème, et si je cherche lentement le poème dans un livre imprimé, c'est vraiment difficile. Et du coup, c'est pour cela, bon, Joachim Séné a déjà posé la question et ça m'intéresse beaucoup aussi, et peut-être je pose la question à Joachim Séné et Simon Rose, en fait, est-ce qu'il y a une différence vraiment entre la distribution en ligne ou la distribution par exemple, ou bon, pas distribution, mais l'écriture surtout des livres en ligne et des livres imprimés? Et ça, je me demande aussi, je crois que c'est vraiment une bonne question, et peut-être voilà, je lance cette question à vous.
Oui, oui. Bah, en ce qui me concerne, moi j'ai un site personnel sur lequel je peux écrire et publier quand je veux. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que il y a toujours la question de, une fois qu'on a fini d'écrire quelque chose, comment on passe à la suite. Et c'est vrai que le fait de pouvoir le publier, ça permet de s'en débarrasser et de passer à autre chose, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui publient en ligne, dans les blogs littéraires français, dans le web francophone que je connais, il y a beaucoup de gens qui, voilà, publient régulièrement. Certains, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, oui, régulièrement, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un usage. D'ailleurs, il y a beaucoup de journaux, des journaux de tout type, des journaux fiction, des journaux littéraires, mais il y a voilà, le fait de la publication régulière, ça donne je pense, un type de littérature en ligne particulier qui est le journal. Il y a, voilà, il y a Brigitte Sellerier, Sébastien Ménard, Guillaume Vissac qui font ça. Il y en a beaucoup. Et c'est des choses qu'on ne pourrait pas écrire si on n'avait pas le bouton publier à disposition, quoi, hein. S'il fallait attendre d'être en revue ou de trouver un éditeur, bon, clairement, on ne le ferait pas. C'est le site personnel qu'on peut administrer soi-même a vraiment apporté ça. Et ça, c'est des créations, je dirais, simples, parce que c'est le type blog, simplement. Mais la simple action d'auto-publication a son importance dans un processus de création. Après, il y a des livres qui s'écrivent comme ça. Il y a Quentin Leclerc, par exemple, il a son... alors lui, il n'utilise pas d'outil de blog, il code directement en HTML, donc il code directement en web ses textes, hein, comme d'autres le font, Thierry Bestingel ou Philippe de Jonquière procèdent comme ça. Il crée directement le code sans passer par un outil type WordPress ou avec une base de données. Ils font, c'est quelque chose d'assez... il y a ce côté brut qui est intéressant, quoi. Et donc, Quentin Leclerc, lui, de temps en temps, on trouve des fictions au milieu de son journal, soit personnel, soit littéraire, d'un seul coup, hop, il y a une fiction qui sort un jour, et puis voilà, un an, deux ans, trois ans après, ça fait un livre, on s'y attend. Et ça permet aussi de... C'est un atelier. D'ailleurs, c'est le sous-titre de mon site, c'est Atelier ouvert. Parce que dedans, je mets des choses, et après, il y en a qui deviennent des livres. Et il y a aussi des choses que je ne mets pas du tout sur mon site, et ça devient un livre. Et donc là, pour passer à autre chose, je suis obligé d'attendre qu'il soit accepté, publié, et là, je peux dire, ah, c'est bon, je peux écrire autre chose. Et puis après, dans les livres, il y a aussi, est-ce qu'un site est un livre ? Parce que je parlais de Philippe de Jonquière et de son site, Le Désordre. C'est quelque chose qui, alors là, on ne peut pas l'imaginer autrement que sous forme de site web. C'est un site qui contient des milliers, et vraiment des milliers de pages. Je crois qu'il y a plus de 300 000 fichiers. Donc on comprend aussi là les images, les sons, les vidéos. Et donc, à la base, il est photographe. Donc quand Philippe de Jonquière crée une série photographique, il va créer de façon unique une façon de présenter ses photos en ligne. Donc il va avoir une page web particulière codée spécifiquement pour cette série de photographies. Et ça va faire une entrée dans Le Désordre, qui est par ailleurs très difficile à trouver parce que sa page d'accueil, c'est simplement des photos jetées au hasard sur l'écran. Puis après, à nous de savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe si je clique là ? Il n'y a pas de menu, il n'y a pas de navigation. Donc c'est pour ça que c'est un objet vraiment purement numérique, un objet artistique purement numérique. Il y a aussi des textes. Il y a un journal, il y a plein de choses. Et par rapport à ce que disait Maria sur le temps de lecture, le fait de lire sur écran, il y a un truc donc qu'elle va détester, c'est Mon Oiseau Bleu, ça s'appelle, c'est la dernière création qui m'a demandé de programmer. Lui, il a apporté le texte, les vidéos, l'ambiance sonore. En fait, c'est une création numérique qui intègre toutes sortes de médias. La colonne vertébrale, c'est un long poème qui ferait 300 ou 400 pages. Et chaque fragment de poème qui consiste en... C'est des séries de trois vers, comme des haïkus. Trois vers, trois vers, trois vers. Il y a des colonnes comme ça. Et quand on se promène dans le site, on peut défiler le long de la colonne de poèmes. Et autour, il y a des images, des extraits de films... des sons qui apparaissent progressivement quand on s'approche et qui il y a les fade out quand on s'éloigne et on se promène comme ça dans un environnement qui est l'écran et on a fait une version pour des projections en galerie qui défile automatiquement très lentement pour qu'on ait le temps de à la fois lire le poème, de regarder un petit peu les vidéos et on a calculé que ça prendrait au moins 9 heures à tout parcourir. Donc là, c'est vraiment, ça tient du marathon de lecture. Donc est-ce que quelqu'un va un jour lire ce poème en entier ? C'est même pas sûr, parce que pour le lire en entier, il faut entre 9 et 12 heures pour pouvoir se dire, non seulement je lis le texte, mais en plus voilà, je regarde les vidéos, j'attends la fin des extraits. Donc c'est un truc monstre. Et alors ça ne peut exister que sur le web, ou en tout cas sur ordinateur. Il y a d'autres projets qui... Parce que là, il n'y a pas de notion de participation ou l'influence des lecteurs sur la page. C'est juste voilà, une personne qui assiste assiste à une projection, finalement. Ça fait penser aussi aux séries qu'on regarde. On peut très bien passer en mode défilement automatique. Et à ce moment-là, on va s'asseoir, regarder le poème défiler. On n'a rien à faire. Donc, il y a aussi, ça interroge aussi ouais, cette façon peut-être un peu... nouvelle, de consommer la culture, de les séries qui s'enchaînent toutes seules, ou dans Spotify, une fois qu'on a fini un album, il y a un autre qui suit si on n'a pas désactivé l'option. Dans Netflix, c'est pareil. Dès qu'on finit de regarder quelque chose, hop, il y a quelque chose qui s'enchaîne. Donc là, sur le texte, est-ce que voilà, on peut aussi rester face à un texte et puis le regarder comme un spectacle.
Donc, pour faire le parallèle avec la musique, sur la question de l'influence que ça a sur la création, les supports digitaux. Alors, déjà, je vais commencer par, comme j'avais dit, la digitalisation, ça permet d'être plus indépendant pour beaucoup d'artistes. Donc déjà, le fait d'être plus indépendant, on a plus de liberté. Donc encore une fois, ça fait écho à ce que disait Joachim. Alors, je vais beaucoup parler de mon expérience personnelle. J'ai personnellement publié des musiques que jamais j'aurais pu publier si Internet n'existait pas, si j'avais dû passer par des managers, par des agents, par des labels, tout ça. Et je voulais juste les partager parce que j'avais un désir de les partager, pas parce que je pensais qu'elles marcheraient. Je savais très bien qu'elles ne marchaient pas. C'est des choses que j'avais envie de partager avec des gens qui écoutaient ma musique pour un désir de partager qui, pour moi, est intrinsèque à l'art, cette envie de partage. Et donc déjà, ça, on peut ces musiques-là, ça m'a donné plus de liberté sur la créativité. Si j'avais travaillé dans un milieu, enfin, si j'avais été musicien il y a 40 ans, je ne pense même pas que je me serais permis de penser ces musiques-là. Parce que j'aurais eu aucun espoir de les faire écouter à qui que ce soit, donc je ne les aurais même pas écrites. Ensuite, pour revenir plus à des contraintes que la distribution en digital impose, sur Spotify, par exemple, l'une des premières leçons, hein, entre guillemets, hein, qu'on a quand on va publier de la musique en distribution, quand on cherche des tutoriels ou qu'on discute un petit peu avec des producteurs ou peu importe, on nous dit, le premier truc qu'on nous dit, c'est que, étant donné que Spotify te paie une fois que tu as 30 secondes d'écoute, il faut que tu arrives à garder l'attention des auditeurs au moins 30 secondes. Et donc, que les premières secondes, tu donnes envie aux auditeurs d'écouter ta musique plus de 30 secondes. Donc, tu ne vas pas mettre le moment le plus... l'apogée de la musique avant tes 30 secondes. Pourquoi on ne le ferait pas? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne le fait pas parce que sinon, on ne serait pas payé si le moment important arrivait avant 30 secondes. Donc, et on a plein de choses. Enfin, et maintenant, plus la musique est courte, plus ça donne envie... Enfin, plus on a de chance que la personne la rejoue. Donc, on va avoir des musiques plus courtes. Là où avant, on aurait pu avoir... le standard, ça devait être 3 minutes, 3 minutes 30. Maintenant, on va quand même commencer à avoir des musiques plus autour de 2:30, 2:50. Ce qui fait quand même très court, mais ce qui va permettre, en fait, d'avoir des gens qui rejouent la musique plus longtemps. Vu qu'elle est plus courte, il faut la rejouer plus. Et on va avoir dans la structure, on va avoir des choses... par exemple, on peut avoir un build-up vers... au lieu de finir la chanson sur une outro, on va la finir sur un build-up pour donner un sentiment de frustration, pour donner envie de rejouer la musique. Alors actuellement, j'ai deux chansons qui ont très bien marché dans la pop. Hein, avec cet exemple, il y a Trampoline de Shade. Donc c'est que de la pop, hein, mais qui finit sur un build-up. Et la première fois que je l'ai écouté, j'étais très surpris, mais c'est quelque chose de normal maintenant. Et on a aussi Old Town Road, qui est l'une des chansons les plus streamées, là, probablement la plus streamée des 10 dernières années. Old Town Road de, j'ai oublié, Lil Nas X, qui pareil, finit sur un build-up, ne finit pas sur un refrain, ne finit pas sur un autre. C'est des chansons qui finissent sur leur build-up. Et donc ça a donné un potentiel de replayabilité plus élevé. Donc ça, oui, dans la création, en tout cas dans la musique, ça influe beaucoup. Le support, pour l'instant, Spotify influe beaucoup sur le format final de la chanson. Et ensuite, bon, donc ça fait des restrictions, mais en même temps, alors c'est pas du niveau de Philippe de Jonquière, je ne sais pas comment on prononce, mais après, voilà, encore une fois, avoir des supports nouveaux, ça permet d'innover. Le clip musical, ça n'existait pas quand il n'y avait pas la télé, hein. Donc là, de la même façon, avec YouTube, on peut avoir des formats nouveaux. Moi, je vois beaucoup de producteurs dont les musiques, en fait, sont un produit de leur chaîne YouTube, enfin, un découlement de leur chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'ils sont producteurs, ils vont présenter leur boulot à travers leur chaîne YouTube. Et en fait, leur piste musicale n'est que la démonstration de ce qu'ils vont expliquer pendant des dizaines de vidéos YouTube, un peu comme un cours. Et au bout du compte, on a ce bonus de cette musique qu'on peut écouter qui nous rappelle « Ah oh, oui, ça, c'est ce son-là qu'on avait vu, qui nous avait expliqué. Ah, oh, ça, c'est intéressant, c'est ce son-là qui nous a expliqué. » Donc ça, c'est un des formats, mais on peut avoir plein d'autres choses donc, que je n'ai pas encore imaginées. Mais c'est vrai que ça ouvre des possibilités qui sont, pour l'instant, enfin moi, de ce que je vois, très peu explorées. En tout cas, à grande échelle. On a évidemment des artistes expérimentaux. Enfin, qui sont plus dans la musique expérimentale, mais on a très peu dans ce qui va être de la pop ou même ce que j'appelle de l'alternative, qui reste quand même une scène assez présente, hein, dans la musique en ligne, dans tout ce qui est Spotify et YouTube. C'est vrai que le format est peu exploité. Alors, moi, je travaille actuellement, j'ai un projet. Malheureusement, je me suis cassé le bras, donc ça met un retard à tout ça. Mais c'est vrai que j'essaie moi-même de profiter de la digitalisation des supports pour essayer d'innover et trouver une façon nouvelle de, enfin, créer différemment, présenter la musique différemment en faisant make the best du support, quoi, de ces nouvelles plateformes, quoi, YouTube, Spotify, Instagram, pourquoi pas, d'avoir une sorte de, en fait, c'est cross-plateforme, c'est multi-plateforme, c'est de la musique ou le livre. Donc là, avec l'exemple de Mon Oiseau Bleu, en fait, c'est une sorte de livre multi-plateforme. C'est de la littérature, mais c'est un site web. Et donc, la littérature, en fait, va tisser des toiles dans d'autres domaines. Et c'est quelque chose que la musique peut faire. Alors actuellement, j'ai l'impression qu'elle fait très peu, mais qui est totalement possible. Pour l'instant, elle le fait juste sur à travers des influenceurs Instagram ou YouTube, mais c'est quelque chose de possible, mais qui est très peu exploité. Et ça ouvre des horizons de créativité.
Ce n'est pas facile d'être indépendant du label ou des éditions. Est-ce qu'il y a des avantages ou est-ce qu'on avez-vous remarqué des effets du corona, par exemple? À cause de cela, parce qu'on n'a pas des personnes qui peuvent aider dans cette situation.
Alors, je vais continuer avec la musique. Alors, pour ce qui est du coronavirus, étonnamment, oui. Mais en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est indépendant, mais on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que même si je suis indépendant, donc que je suis mon propre chef, que je vais être, c'est moi qui décide ce que je vais publier, malgré tout, je me construis une équipe derrière. J'ai je produis ma propre musique, mais j'ai un coproducteur avec qui je vais produire, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire et que j'avoue ne pas savoir faire, donc que je vais lui demander de faire. Et j'ai derrière un ingénieur du son qui va s'occuper de la post-production, donc ce qui va être du mastering, parce que c'est un boulot d'ingénieur du son et que je ne suis pas ingénieur du son, donc je préfère laisser ça aux professionnels. Mais c'est vrai que mon producteur, normalement, on se voyait en physique pour travailler, parce qu'il est en région parisienne, moi aussi. Et avec le coronavirus, on n'a pas pu se voir en physique. Donc, il a fallu retravailler un workflow pour que je puisse travailler de mon côté, lui envoyer les fichiers et que lui puisse travailler de son côté. Le problème, c'est que financièrement, c'est compliqué parce que lui a son studio. Mais si moi, je dois enregistrer, ça veut dire que moi aussi, je dois avoir mon studio. Ça veut dire qu'il faut dupliquer tout le matériel, que chez moi, j'ai de quoi enregistrer, que j'ai la bonne carte son, que j'ai les bons micros. Et du matériel studio, c'est pas donné. Donc, c'est un investissement. Donc ça, le coronavirus, c'était un peu, c'est pas horrible, c'est beaucoup moins, ça m'a beaucoup moins influencé que des restaurateurs ou des gens qui travaillent vraiment dans où il y a de l'interaction sociale. Mais étonnamment, ça m'a touché. En tout cas, ça, je dirais que ça m'a surtout mis du retard dans mes projets. Ça a dû demander un remaniement des processus de travail. Ensuite, si c'est compliqué d'être indépendant, c'est que c'est fatigant. C'est beaucoup de pression, je pense, dans le sens où, enfin, si on veut rivaliser avec des personnes qui ne sont pas indépendantes, c'est beaucoup de pression. Après, si on a une stabilité derrière, tout va bien, c'est du bonus. Après, il y a des avantages, évidemment, c'est qu'on est totalement libre. on fait ce qu'on veut. Là où, quand on a une équipe, on va être restreint, comme disait Joachim, quand on a un éditeur, enfin, il faut que ça, on nous parle de marché, il faut que ça colle au marché, que ça soit vendable. Et il y a et parfois, les gens avec qui on travaille peuvent être des personnes pas qualifiées ou qui pensent être plus qualifiées qu'elles ne le sont et refuser des projets qui pourraient marcher. On ne sait pas, hein. Avec des si, on changerait le monde. Mais c'est vrai qu'on est plus maître de soi-même et de l'image qu'on renvoie quand on est indépendant. Parce qu'on n'aura personne pour nous dire non, on n'aura personne pour prendre des décisions à notre place, mais on aura quand même des gens pour nous donner leur avis. Et c'est important d'avoir des gens, malgré tout, qui nous donnent leur avis pour pas être prisonnier de notre... Enfin, pour retrouver un peu de rétrospection et voir qu'on travaille d'un œil extérieur. Mais... À mon avis, c'est important de pouvoir prendre les décisions pour soi-même, en tout cas le temps de se former une image stable, de savoir ce qu'on veut être artistiquement, ce qu'on représente. Et là-dessus, le digital, c'est un vrai avantage parce qu'on a beaucoup plus de moyens de communication directe et donc on va pouvoir beaucoup plus facilement communiquer ce qu'on veut renvoyer. On peut, si on veut écrire à ses fans, on peut aller sur Twitter et leur raconter ce qu'on a pensé de la journée. J'imagine que ça donne ça traduit quelque chose sur ce qu'on est en tant qu'artiste, en tant que créateur. Et si on veut partager une photo, on va sur Instagram. Si on veut partager une vidéo, on va sur YouTube. Et donc, c'est vrai que ça donne plus de liberté sur l'expression de sa personne artistique. Mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail qui est normalement délégué quand on travaille avec un label, avec un management, avec des agents. Et ça peut être aussi une perte de temps. Moi, je sais que je suis incapable pour l'instant de faire du live, là où d'autres artistes avec qui ont moins de streams, moins d'auditeurs que j'ai, font des tournées, parce que je n'ai pas le temps de faire des vidéos pour montrer que je sais jouer, je n'ai pas le temps de contacter des salles. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire actuellement en étant indépendant. Donc ça reste restrictif de choisir le côté indépendant, parce que le temps est une ressource limitée, malheureusement.
Et avez-vous les souhaits de changer cette façon-là pour minimiser la pression, peut-être?
Oui, pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai vraiment, j'accorde beaucoup d'importance à avoir une image d'artiste qui me correspond, et je veux pas laisser qui que ce soit y toucher. Donc je tiens beaucoup à rester en indépendant jusqu'à avoir quelque chose de concret, quelque chose de clair sur ce que moi, mon projet Rosenfeld représente. Et alors, je ne vais pas parler de valeur non plus, hein, ça reste de la musique, hein, je ne suis pas un philosophe, mais quel état de pensée, les sujets abordés, avoir vraiment quelque chose de clair qui me permet de pouvoir faire ça pendant 10, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas combien d'années, sans me dire que c'est quelque chose que je n'ai pas choisi. Enfin, quelque chose que j'ai pu définir moi-même. Et une fois que j'ai pu le définir moi-même, et être sûr que je peux en vivre, alors pourquoi pas impliquer plus de gens. Mais j'accorde vraiment beaucoup trop d'importance à définir artistiquement ce que je suis avant de pouvoir changer. Mais un jour, probablement, un jour, si vraiment j'arrive à rencontrer des gens qui comprennent ce que artistiquement j'ai voulu faire ces années où j'étais indépendant. Sinon, ça ne sert à rien d'être indépendant pendant 5 ans si ensuite c'est pour tout sacrifier pour aller signer avec quelqu'un et faire un revirement total. Le but, c'est de trouver des gens qui ont envie de travailler avec un artiste indépendant parce qu'ils sont tombés amoureux de ce projet-là et qu'ils ont envie de le développer, pas parce qu'ils ont envie de mettre un autre projet dans cette tête, quoi.
Oh. Merci. Joachim, qu'en pensez-vous peut-être utile pour un travail sécur? Ton approche de l'édition?
Dans l'édition, sur le côté indépendant, là, c'est vrai, savoir tout faire, c'est vrai, le côté administratif, il faut être comptable, commercial, faut trouver à se faire accueillir, comment faire une lecture, comment provoquer les rencontres. Tout ça, c'est vrai que c'est... souvent, d'ailleurs, c'est le hasard qui fait ça. On rencontre des gens par hasard. Et puis, 6 mois, 1 an, 2 ans après, on nous propose une rencontre en librairie ou à l'université de Dresde, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui prennent du temps et qu'on maîtrise pas forcément. Et du coup, on est dépendant de quelque chose qu'on maîtrise pas. Donc, c'est pas forcément facile. Et puis, il y a et donc oui, par exemple, pendant le confinement, pendant le coronavirus, c'est vrai qu'il y a des événements littéraires qui sont tombés à l'eau. Alors tout ce qui était subventionné, donc tout ce que c'était le département ou la ville avait payé, bon, moi j'ai pu être payé comme si ça avait eu lieu. Donc parce que c'est vrai qu'on est indépendant, on dépend pour le... On n'a pas de salaire régulier, donc on dépend vraiment des choses ponctuelles qui nous arrivent, quoi. Donc, les ateliers, on peut se faire à distance. Ateliers d'écriture, on peut se faire à distance. Donc, ça a continué parce que pour un auteur, en fait, être indépendant, ça veut dire, en gros, on nous propose des ateliers d'écriture, quoi. Et après, la question, c'est, un atelier d'écriture de temps en temps, c'est bien. Quand il y en a un petit peu plus, c'est mieux parce que ça fait plus d'argent. Mais il y a un moment donné, à quel moment on crée? En fait, puisqu'on est quand même invité pour faire des ateliers d'écriture, on est invité parce qu'on a écrit, mais il ne faut pas non plus que ça nous empêche d'écrire. Comment est-ce qu'on peut réutiliser ça dans notre processus de création? Est-ce qu'on peut tirer quelque chose d'un atelier d'écriture, des fois, c'est carrément pas possible. Et ça, c'est difficile au niveau créatif de se dire que là, on va faire, je sais pas, 5-6 trajets pendant toutes les semaines, pendant un mois, deux mois, et ça va faire 2 heures de transport, 1 heure d'atelier, et puis finalement, on va rien en retirer artistiquement. Donc, c'est vrai que il y a des choses avec lesquelles on doit jongler, des choses qu'on est obligé de faire, il y a des choses qu'on aimerait ne pas faire, qu'on fait quand même, il y a des choses qu'on aimerait faire, qu'on ne fait pas. C'est vrai, en plus, pour moi, donc, qui suis donc catégorisé principalement auteur numérique, mon éditeur a une origine numérique, même si maintenant, voilà, est complètement papier, et il pense même à... Parce qu'en fait, dans l'édition papier, il y a l'impression à la demande qui fait que le livre n'existe pas tant qu'il n'a pas été commandé. Il est imprimé à la demande, soit par une commande en ligne, soit par un libraire. Et il y a ensuite le principe des 500 tirages qui fait qu'un livre, il va être tiré à 500 exemplaires comme premier tirage, et ces exemplaires-là, ils vont partir dans les valises des représentants qui vont dans toutes les villes pour proposer le livre aux librairies et le placer. Donc ça, c'est un cran au-dessus, on va dire, dans l'édition, et c'est ce que Publinet l'a essayé de faire, quoi. C'est sur certains livres de pouvoir les faire représenter en librairie, parce que dans la visibilité, on a beau avoir un éditeur papier, le livre, il peut être vraiment disponible en moins d'une semaine n'importe où. Tant qu'il n'y a pas de représentant qui va frapper à la porte de la librairie pour dire ce livre-là et en parler, le livre, il n'existe pas en réalité. Donc c'est vraiment ça qui compte. Ouais. Excusez-moi, je regarde mes notes parce que j'avais noté des choses pendant le... Mais allez-y, hein, si quelqu'un...
Je me permets d'intervenir. Tout d'abord, en invitant tous les participants de la discussion qui ne sont pas visibles de nous joindre et de participer activement, aussi les étudiants qui sont ici dans notre salle virtuelle, donc parce que notre discussion est vraiment conçue comme discussion entre étudiants et enfin, différents invités. Donc, alors. Prenez votre courage et participez à la discussion. Donc, je voudrais attirer l'attention sur un autre problème dont on a, enfin, pas vraiment encore parlé, mais qui est lié au point qu'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire le problème des droits de l'auteur, c'est-à-dire la propriété intellectuelle. Parce qu'avec la numérisation, il y a vraiment, enfin, des grands changements par rapport à cette propriété intellectuelle des auteurs, des musiciens. Est-ce que ça vous inquiète, en fait, cette évolution dans le domaine de la musique, mais aussi de la littérature, la production de textes sur l'Internet, et une difficulté croissante, d'après ce que je vois, de garder ou d'assurer cette propriété intellectuelle aux auteurs, aux musiciens? Est-ce que c'est un problème
Moi, je dirais non, parce que c'est d'autant plus facile à tracer la propriété sur Internet que c'est disponible. Donc, à partir de là, il n'y a pas trop de problèmes de propriété intellectuelle. Quoi. Moi, je sais que mon site ou les sites auxquels je participe, les revues, etc., sont... utilise la licence Creative Commons de partage libre, et ça marche très bien pour diffuser, quoi. Ça laisse ouvert toutes sortes de suites à une œuvre, de reprise, de remix, donc ça, c'est plutôt les échanges. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des échanges qui se sont faits sur le web entre créateurs, les groupes qui se créent les groupes d'intérêts poétiques qui peuvent se créer par affinité et créer des œuvres ensuite qui se diffusent grâce au web.
Alors, moi, pour parler un petit peu de la musique, hein, des droits, c'est vrai que... Alors, pour la traçabilité, c'est vrai que c'est assez traçable. Le seul problème, c'est vrai qu'il nous manque des outils. Je sais que, par exemple, sur YouTube... Si demain je sors une musique et que je veux laisser n'importe quel... j'ai le choix, en fait. Si demain je sors une musique, j'ai le choix. Soit je peux laisser sais, n'importe quel créateur sur YouTube utiliser ma musique gratuitement, ils peuvent les mettre dans leurs vidéos et ils peuvent générer du revenu avec les pubs et ils gardent leur revenu. Soit je décide qu'à partir du moment où un créateur utilise ma musique, le revenu de sa vidéo me revient parce qu'il a utilisé ma musique. Alors moi, habituellement, j'aime bien, personnellement, je préfère laisser les gens utiliser ma musique. S'ils ont envie de l'utiliser, c'est du partage, ça me fait de la visibilité, j'en ai rien à faire, vraiment. Mais il y a une raison pour laquelle je pourrais vouloir leur prendre leur revenu, c'est qu'à partir du moment où donc on s'inscrit, hein, on met la musique dans le Content ID, qui va nous permettre de détecter les vidéos qui utilisent notre musique, et bien tout bêtement, on aura détecté les vidéos qui utilisent notre musique. Et en fait, je suis obligé de leur demander de leur prendre leur revenu pour savoir qui a utilisé ma musique. Je n'ai pas l'option de dire tout le monde peut utiliser ma musique, mais je veux savoir qui l'utilise. Et donc, j'ai aucun moyen, moi, en tant que personne indépendante, de savoir quel est le type d'audience, qui aime bien utiliser ma musique, où est-ce qu'elle se partage, si je décide de la laisser se partager comme les gens veulent, sans restriction. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'outil qui me permet de savoir, en cherchant mon nom de musique dans YouTube, il ne va pas me sortir les vidéos qui utilisent ma musique, à moins que la personne l'ait mis en description. Mais plein de fois, la personne n'aura pas mis les liens en description. Et donc, je suis obligé, moi, de dire elle n'est pas libre d'utilisation sur YouTube. Comme ça, moi, j'ai le compte-rendu de qui utilise ma musique. Donc ça, c'est vrai que d'un point de vue des droits, il manque certains outils pour tracer. Mais sinon, ça va. Hein, on met normalement le nom en ligne. On voit à peu près où est-ce que ça a été. Dans tous les cas, en fait, les grosses maisons de disques vont aller se battre pour que ça ne soit pas utilisé n'importe où. Si YouTube ou Twitter demain laissaient les gens télécharger ça n'importe comment, tu aurais une maison de disques Universal, Sony ou Warner qui viendrait leur lancer un procès. Donc, il y aura un outil qui serait mis à jour pour détecter l'utilisation des musiques. Donc, limite, je dirais que ça rend les choses plus simples aussi, en tout cas musicalement, de savoir qui utilise quoi, où est-ce qu'elle est. Alors, il manque encore des outils, il y a du chemin à faire, mais je pense qu'on a plus de vision, on arrive à avoir une meilleure vision actuellement, justement, avec la digitalisation. Après, c'est vrai que les gens utilisent ça, c'est un peu le Far West, hein, d'un point de vue légal en ligne. Les gens n'ont un peu rien à faire. Si on leur dit demain, n'utilise pas mes musiques, ils l'utiliseront quand même. Mais il n'y a pas non plus un... Je sais pas ce que ça représente, en tout cas, hein, une sorte de le téléchargement illégal, si vraiment c'est une perte majeure, sachant que pour un... ensuite, il y a tout ce qui est... j'ai oublié le nom, mais tout ce qui va être live, les conférences, tout ce qui va être même un concert, en fait, le streaming et le téléchargement est très minime pour un artiste, donc bon... C'est compliqué. Tout ce qui va représenter en fait vraiment beaucoup d'argent et un vrai gros légal, donc ce qui va être synchronisation dans des pubs, ça reste quelque chose qui est très encadré toujours, malgré le côté numérique. Une pub qui passe à la télé, Adidas, peu importe, ils n'utiliseront jamais quelque chose dont ils n'ont pas les droits. Ça risque d'être un petit mec dans sa chambre qui a envie de publier, enfin de promouvoir son dessin ou je sais pas quoi, qui utilisera une musique dont il n'a pas les droits. Alors, il n'a pas le droit, mais bon, c'est vraiment pas très grave et c'est assez anecdotique quoi, comme situation. C'est vraiment. Et surtout, il y a normalement les outils Facebook peuvent détecter, ils ont les moyens de détecter si la personne a les droits ou pas pour la musique. Donc, justement, c'est un peu plus le Far West d'avoir un milieu numérique, mais en même temps, ça permet d'être plus contrôlé. Quoi.
Alors, mais. Comment voyez-vous la consommation de musique dans 5 ans ou de livres? Est-ce qu'il adviendra des librairies conventionnelles dans 10 ans peut-être ou...
En tout cas pour la musique je pense vraiment que... Enfin, pour moi, ça m'étonnerait vraiment que dans 10 ans, vraiment, le CD est encore un vrai... Enfin, allez, 20 ans, que le CD est un rayon à la FNAC ou dans un magasin de la taille qu'il a actuellement. Comme personne... Normalement, il n'y a pas... On a vraiment quasiment plus d'avantages à utiliser un CD. Un CD, On allait à la FNAC avant, on trouve des CD. Moi, je me rappelle quand il y a 10 ans, quand j'étais petit, j'allais à la FNAC, j'écoutais des CD pour découvrir, en fait, des artistes. Je voyais un CD, je voyais une pochette que j'aimais bien. J'allais le mettre dans le lecteur de la FNAC, enfin, où j'allais rentrer le numéro, j'ai écouté, je me disais, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Maintenant, ça, on peut le faire sur les services numériques. On a nos recommandations, on a Spotify Daily, on a Deezer qui propose un service similaire qui va nous recommander des musiques chaque semaine. Donc, déjà, les rayons CD dans des magasins perdent leur côté utile pour ce qui est de la découverte. Et ensuite, pour ce qui est de la vente, comme je disais un peu plus tôt, le CD, ça devient une sorte de relique de l'artiste, ça vient de la merch. Donc, ça fait plus de sens aussi que ce CD soit vendu sur le site de l'artiste. Donc, encore une fois, en digital, quand on va sur le site de l'artiste, on va dans le store et on achète son CD qu'on se fait livrer à la maison plutôt que d'aller dans le magasin qui probablement n'aura pas le CD de cet artiste qui n'est pas connu dans notre pays ou qui n'est pas assez gros pour avoir être distribué dans le magasin. Donc, en tout cas, pour la musique, moi, je vois bien le CD alors disparaître des rayons, mais ne pas disparaître de la vente. Parce que ça reste quelque chose qui reste important quand on aime un artiste. Moi, je sais que j'aime beaucoup Coldplay, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, et j'ai probablement tout leur CD. Mais j'écoute pas leur CD. J'écoute leur musique sur Spotify, mais j'ai leur CD parce que j'aime le groupe. Donc, j'ai envie d'avoir leur CD parce que ça me fait plaisir d'avoir cette collection de CD d'un groupe que j'aime. Alors, je le vois bien. Voilà, donc je vois vraiment bien ça disparaître des rayons, mais acheter en ligne et qu'on ne l'utilise vraiment plus, que ça soit vraiment un bibelot dans une étagère, quelque chose qu'on a envie d'avoir comme ça.
J'ai acheté le premier CD de Coldplay en 2001 à la FNAC.
Et ben voilà.
J'ai arrêté au premier, si je peux lancer une petite pique sur Coldplay.
Moi j'ai préféré le deuxième. Ensuite, c'est vrai que...
Un petit peu le deuxième.
Ah, moi j'ai bien aimé. Mais le premier, très bien.
Ça pose la question en fait de la médiation, parce que effectivement, quand j'allais à la FNAC, alors il y a un petit peu plus longtemps, hein, je suis un petit peu plus vieux, mais voilà, il y avait. Alors on pouvait effectivement déjà écouter les disques, et puis. Puis bon, voilà, après en librairie, bah, y a le libraire au magasin de disques qui avait le disquaire, et puis c'était la question de la médiation, quoi, les gens qui peuvent nous conseiller ce qu'on aime. Alors, c'est vrai que l'algorithme de Spotify, il est super bien développé. Il n'y a pas d'équivalent pour le livre. C'est vrai que quand on va sur une librairie en ligne, que ce soit, si on va sur Place des Libraires, ou sur Amazon ou sur le site de la FNAC, c'est pas des vraies recommandations de livres vraiment très intelligentes, on va dire, contrairement à Spotify qui nous connaît vraiment de façon très intime sur la musique. Ils arrivent à conseiller des trucs, mais quand même pas tout. J'ai remarqué que des fois je dois encore passer par des amis pour découvrir un nouveau disque que Spotify n'a pas une seule seconde pensé à me faire découvrir. Et donc je pense que ce qu'il faut garder, ce que j'espère qu'il ne va pas disparaître, c'est la médiation par des gens qui connaissent. Et puis si le vinyle ou le CD permet de rouvrir des disquaires, ce serait vraiment bien. En plus, ça ferait revenir des petits showcases dans les arrondissements, dans les quartiers, dans les villes. Ce serait pas mal. Comme en librairie, il y a toujours des lectures, parce que bah voilà, il y a des lieux où on partage le livre, où les libraires conseillent des livres, où de temps en temps voilà, un auteur, une autrice peut venir conseiller des livres ou lire son propre livre. Et c'est vrai que c'est des lieux d'échange comme la bibliothèque municipale tout simplement, ou universitaire. Ça, c'est c'est la question aussi de qu'est-ce que la médiation fait avec le numérique aussi. C'est vrai que dans la critique, dans la presse, le numérique n'existe pas. Alors en musique, je saurais pas dire, je suis pas trop là, j'avoue, je m'en tiens à Spotify pour les algorithmes, mais pour le livre en tout cas, tout ce qui vient du numérique, je parlais tout à l'heure de la force symbolique, il y a quand même une distinction vraiment sociologique qui se fait dans la critique, dans la presse, sur j'avoue, je me suis amusé sur une des principales émissions de critique française qui est ça s'appelle La Dispute sur France Culture, parle de trois livres plus, qui parle en une heure, parle de trois livres plus un qui est un coup de cœur d'un des animateurs. Donc sur 4 livres par émission, j'ai regardé sur un an la répartition en termes d'éditeurs et on voit clairement que il y a les éditeurs principaux type Gallimard, Le Seuil, Flammarion, Grasset sont parmi les plus cités et de loin, et ça respecte la c'est la loi de Pareto, je crois, qui dit que en gros, comme quand on dit que on fait 80% du travail en 20% de temps, la règle des 80-20, là, elle s'applique aussi à la répartition des éditeurs dans les émissions littéraires. Quoi. C'est-à-dire que Gallimard va avoir 80%, ensuite les éditeurs, Actes Sud va avoir moitié moins, puis ainsi de suite. Puis après, il y a des petits éditeurs, des fois on parle d'une fois dans l'année. Et alors pour les éditeurs qui viennent du numérique, ou pour des choses qui pourraient être purement numériques d'ailleurs, ça jamais ça ne va être abordé, tout comme la poésie d'ailleurs n'est jamais abordée par la critique. Mais donc qu'est-ce que la presse, qu'est-ce que la critique fait de du numérique? C'est vrai que c'est un petit peu plus développé à l'université. Enfin, moi je vois avec les universités avec lesquelles je travaille, il y a beaucoup moins de barrières symboliques parce que les gens, c'est leur travail de recherche, donc ils sont plus intéressés par le texte que par le symbole qu'il y a autour d'un objet fétiche, quoi. Donc alors, est-ce que ça va changer dans les années à venir? Je ne sais pas, peut-être.
Alors, tout à l'heure, vous parlez de la médiation. Donc, il y a une grande question pour moi qui n'a pas trop été abordée. C'est la question pour vous deux du public, en fait, de votre audience. Et est-ce que vous connaissez vos lecteurs en ligne ou les écouteurs en ligne et comment vous rentrez en contact? Parce que, je veux dire, les événements ou les occasions pour se retrouver, pour se rejoindre ensemble et physiquement, donc des festivals où on va écouter votre musique ou des lectures, des foires de livres où on va lire ensemble, ça, ce sont quand même, me semble, des moments qui me paraissent importants pour identifier son public, pour le comprendre mieux. Ça, j'ai du mal en fait à voir comment avec la numérisation, ou peut-être vous pouvez me donner plus d'idées, comment vous identifiez vos lecteurs, vos écouteurs, et voilà.
Alors, je peux dire rapidement c'est très simple sur les réseaux sociaux en fait, sur les amis Facebook, les gens qui me suivent sur Twitter, les gens qui relaient quand je publie quelque chose, que ce soit un texte sur mon site, ou quand je sors un livre, ou quand il y a une critique de mon livre dans un article, un site. Voilà, on a des échanges en ligne directement, c'est relayé. Donc ça, c'est vrai que c'est très facile à voir à quel cercle, finalement, on appartient. On voit que notre cercle croise le cercle d'autres auteurs. Il y a des petites galaxies comme ça qui se forment autour de la revue remu.net. Il y a très clairement une grosse partie de la communauté francophone de lecteurs de littérature en ligne qui est autour de Remunet, PubDinet, c'est pareil. Donc je crois que ça, c'est assez facile à voir. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est bien les rencontres en public, parce que c'est vraiment un tout autre public. Quand on va dans une bibliothèque ou dans une librairie, du coup, c'est le réseau du libraire ou des bibliothécaires. Et donc là, voilà, on rencontre d'autres gens qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient lire en ligne, en fait. Donc ça, ces rencontres-là sont vraiment très intéressantes.
Ok, donc juste pour rebondir, du coup, pour bien comprendre, vous faites bien vous constatez bien une différence, en fait, parmi les personnes qui sont vraiment, qui vous suivent en Internet, et ensuite sur les lieux physiques, les personnes qui vont y aller, vous faites bien la différence, vous voyez des différents types de public.
C'est ça, oui. J'ai des habitués en ligne. De temps en temps, je me rends compte que il y a des gens qui découvrent, mais globalement, j'ai mes habitués en ligne, et puis après, quand je fais des rencontres, là, c'est des gens je vois qui découvrent. C'est ça, oui.
Ok.
C'est assez similaire dans la musique, les réseaux sociaux, que ce soit dans la littérature ou la musique. Après, je ne connais pas trop l'audience de Joachim. Moi, j'ai beaucoup d'auditeurs, en fait, qui ne sont surtout pas français. Et qui... Mais j'ai beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas français, tout bêtement. Donc, ce qui fait que j'aurais jamais pu les connaître autrement que par message. Alors la plupart, pour les identifier, en fait, c'est comme dit Joachim, en fait, c'est des réguliers. Quand je poste quelque chose, ça va être eux qui vont réagir. Alors peut-être pas en premier, mais je sais qu'ils vont réagir, qu'ils auront un commentaire rigolo dont je pourrais reconnaître que bah, c'est eux qui l'ont posté. De toute façon, je vais reconnaître le pseudo. Et puis parfois, je sais que j'ai des, enfin, il y a des plateformes. J'utilise beaucoup Discord maintenant. Alors c'est une plateforme. C'est la première fois où je me suis senti vieux. Hein. J'ai 21 ans, mais je me suis senti un peu largué par la technologie. C'est alors c'est beaucoup de, je dirais, de 13-18 ans qui utilisent cette plateforme, mais c'est très très communautaire, il y a beaucoup d'interactions, et donc là-dessus, c'est vrai que les gens avec que j'ai rencontrés sur Discord, en tout cas avec qui j'ai interagi sur Discord, c'est des gens maintenant, je connais leur prénom, je sais qui c'est, je vois à peu près leur façon de penser, et je vois à peu près qui écoute ma musique. Et de la même façon que Joachim disait, il y a des artistes similaires. Après, c'est vrai que pour découvrir des artistes similaires, il y a deux outils qui sont très utiles. Je ne sais pas si c'est très connu, qui s'appelle Every Noise at Once. Et l'autre, c'est un graphe, tout bêtement, sur un site sur lequel j'étais tombé sur Reddit, qui va permettre, en rentrant un nom d'artiste, d'avoir littéralement un graphe d'artistes Spotify qui vont montrer la proximité en deux genres et la taille de l'audience avec la taille des cercles. C'est très intéressant. Je vais partager le lien, tout bêtement, dans le chat. Pour ceux qui l'ont pas, suffit de chercher Spotify Artist Network, Playground, et normalement, on tombe dessus, hein, pour ceux qui écoutent. Je vais poser ça dans le chat. Donc c'est suffit de rentrer un nom, on clique et ensuite on a un graphe des artistes similaires qui sortent. Donc ça c'est assez utile pour identifier son audience. Et Every Noise at Once qui permet d'avoir en fait la liste des genres sous lesquels sont catégorisés un artiste. Donc quand on se trouve, on rentre son nom d'artiste, on voit la liste des genres et ensuite on peut cliquer sur le genre et voir bah, tous les artistes qui les plus gros artistes de ce genre pour avoir voir à peu près qui on a comme artiste similaire. Et c'est vrai que bah, c'est assez utile, hein, en fait, que ça soit sur numérique. Je sais que si moi, je me rentre l'un des noms de mes musiques dans Twitter, je mets Rosenfeld Do It For Me, et bah, en fait, je vais tomber sur des listes, enfin, des gens qui font des listes de leurs musiques préférées, et dedans, je vais trouver d'autres artistes. Donc, je vais pouvoir tomber, là, je tombe sur A Little Mess Up de June, donc Valérie Broussard, Paris, enfin Charlotte Lawrence, bon, des artistes que je connais pas, si Sophia Calbar, je connais. Et donc, bah, je vais ensuite aller écouter ces artistes, je vais voir probablement que c'est des artistes similaires, en tout cas, les musiques citées vont être similaires, un peu dans le même genre de ce que je fais, donc ça va me permettre d'identifier un petit peu qui est pareil, quelle est mon audience, donc à travers l'interaction et à travers les moteurs de recherche.
Merci. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin et j'aimerais vous donner la possibilité de s'exprimer et laisser la place à vos questions. Sinon, je vais finir le débat.
Oui, peut-être, je vais bien poser encore une question et cette question élargit un peu la question de Maria Flug. En fait, moi, je me pose la question quand même, est-ce qu'on parle d'un groupe cible différent entre la distribution numérique et la distribution par les disques ou imprimés, ça dépend de la littérature ou de la musique, parce qu'en fait, comme Simon a dit ou a estimé, moi je trouve quand même quand t'as dit par exemple quand j'ai envie de distribuer une chanson, bon, je distribue la chanson même si je sais que bon, c'est pas la chanson pour tout le monde, mais je distribue pour partager ma musique avec des personnes qui m'écoutent. Du coup, je me demande quand même, est-ce qu'on fait une différence entre le groupe cible en ligne et le groupe cible qui va chez Fnac, qui va à la librairie, je sais pas.
Alors, juste voilà, pour répondre directement, alors personnellement, oui. Alors, j'ai pas de preuves, mais j'imagine quand même assez. Vu que c'est de la musique en digital, je fais pas de concert, donc c'est vraiment ça va être des jeunes plutôt connectés, hein, et qui sont en fait démographiquement beaucoup dans les zones urbaines, en fait, dans les capitales. Ça va être vraiment des gens qui sont ultra connectés, jeunes, machin. Et pour ce qui est de la distribution, pour revenir à cette distribution sans vraiment en avoir quoi que ce soit à faire, ça c'est plus. C'est vrai que ça va être plus pour engager, alors si on parle sur un plan stratégique, il n'y avait pas toute cette stratégie derrière quand je l'ai fait, mais c'est vrai que sur le public que ça cible, ce genre de distribution où j'ai une musique que j'ai juste envie de partager, bah, ça va, c'est vrai que ça va permettre d'engager plus les super fans, ceux qui ont vraiment envie de tout connaître de l'artiste, qui ont envie d'être à 100% savoir tout ce qu'il a fait, qui il est, machin. Ça, c'est quelque chose. Quand on est avec un gros label, bah, les informations, elles sont les mêmes pour tout le monde. Quand on sort un album, il faut que tout le monde écoute toutes les musiques de l'album, ou en tout cas, il y aura des fillers. Les 4 chansons ou les 3 chansons dans les 10 qui ne sont pas très intéressantes, on sait qu'elles ne sont pas très intéressantes, elles sont là parce qu'on a besoin de faire du temps. Et bon, bah, on veut sortir un album, donc on met des chansons moins bien dedans. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'envie d'avoir une super fanbase. En tout cas, moi, personnellement, dans comment je fais, il y a les gens qui écoutent ma musique, qui sont, donc ça fait 300 000 auditeurs, donc ça fait quand même beaucoup, mais sur ces 300 000 auditeurs, j'en ai que 5 000 qui me suivent sur Instagram. 300 000 auditeurs par mois. Et j'en ai que 5 000 qui me suivent sur Instagram. J'en ai 10 000 qui me suivent sur Spotify, donc on peut dire qu'il y en a 10 000 qui me suivent pour ma musique, mais il y en a 5 000 qui me suivent pour ma personne. Et ensuite, dans ces 5 000 qui me suivent pour ma personne, il faut trouver ceux qui vraiment ont envie de tout connaître, et il y en aura peut-être 100 ou 200 qui sont vraiment des super fans et qui ont envie de tout connaître, savoir où est-ce que je passe mes vacances, quels sont les autres styles de musique que j'écris mais que je partage pas. Donc c'est là où on va avoir cette distribution directe, quoi, où ça pourrait même être des choses que je distribue pas sur les plateformes digitales en streaming, mais ça peut être quelque chose que je fais écouter au cours d'un live. Si demain là je fais un live Instagram et je dis j'ai fait cette musique que je sortirai pas parce que c'est pas trop mon truc, mais c'est super fan, ils seront là et c'est pour eux, quoi. C'est vraiment parce qu'il y a cette micro-audience ultra engagée, bah, alors je vais avoir ce contenu un peu premium qui est accessible en fait à n'importe qui, mais c'est à eux que ça s'adresse. C'est vraiment une sorte de micro-fanbase très très engagée que je pense doit être assez dur à atteindre quand on est à travers un label, vu qu'en fait on n'en a un peu rien à faire de cette fanbase, hein. Quand on a une vraie énorme fanbase, il y en a organiquement de toute façon. Et il n'y a pas de contenu spécifique à eux. Excepté s'ils veulent mettre de l'argent en plus. J'imagine qu'il doit y avoir des choses pour payer 15 euros par mois, s'abonner, je ne sais pas quoi. Mais ça ne m'intéresse pas.
C'est encore une fois, si j'ai bien compris, on tombe encore une fois sur le contact direct avec le public et les vrais fans. Ouais. Alors, on n'a peut-être pas, si on parle des labels et tout. Ouais.
Exactement. Ouais.
Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions, peut-être, de votre part? Non? C'est dommage. C'était un débat extrêmement intéressant. Merci encore une fois aux experts Joachim Séné et Simon Rosenfeld pour ces éclairages intéressants sur le monde du travail numérique et leur réflexion sur la numérisation. Les débats sont clos. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.
Merci, au revoir.
Merci.